Claro. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous allez bien derrière? Très bien. Comme tout à l'heure, j'ai vu l'équipe de louanges et aussi, je ne sais pas le nom, aussi la personne qui a animé pour la Sainte-Seine, ils ont parler de Fabrice le même verset par rapport à la table de communion de Dieu. Vous savez, quand j'ai préparé juste mon témoignage, c'est rare que je prends le psaume 23. Et c'est rare que je prends. Et Dieu me demandait de prendre cette verset et où il parle de la table de communion. Vous voyez comment on s'est conduit ce matin? Alléluia. Mais je voulais aussi vous dire que ce matin, je voulais remercier aussi votre église. Je bénis cette église dans le nom de Jésus et aussi votre équipe de louanges. Il faut qu'on applaudisse encore pour cette équipe de louanges parce que ils sont une bénédiction parce que c'est là qu'on retrouve Dieu dans la louange, dans la communion. J'ai même pas envie de parler, j'avais envie de continuer à louer Dieu. C'est fort. Donc, on vous bénit et continuez à partir dans ce sens-là, dans la pureté et sainteté de louange. Alléluia. Donc, j'espère, Seigneur, je prie pour que tu me donnes cette voix pure et que ton amour coule, parce que dans ton amour, nous sommes morts. Et que nous ne pouvons pas vivre. Alors, aide-nous à vivre comme Jean, apôtre Jean, et qu'il était tellement proche de toi, qu'il t'a compris de qui tu es, et que quand tu es venu plus proche de toi, il est tombé mort comme il est mort, il ne pouvait pas tenir devant toi. Car Dieu, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que nous sommes avec toi. Quelle fierté que nous avons de t'avoir dans notre vie. Alors, merci Seigneur. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller tout de suite dans mon témoignage. Et puis à la fin, je vais juste partager un peu pour vous encourager un passage de Psaume 23. Alors, je m'appelle Shifnas et je suis né au Sri Lanka. Et dans un village de musulmanes, du coup j'étais élevé dans cette communauté, 5 minutes de chez moi, la mosquée. Du coup, depuis le début de ma naissance, à cause de la pauvreté dans le pays même, et beaucoup de gens partent travailler dans un autre pays, et du coup, qui fait partie aussi de l'histoire de ma vie, mes parents sont partis travailler au pays arabe. Du coup, en 1986, je suis né, ma mère était enceinte de moi au Koweït, elle est venue m'accoucher, et du coup, elle m'a déposé dès le jeune âge. Je suis même sûr qu'elle a resté peut-être 12 ans seulement avec moi et qu'elle est repartie tout de suite travailler. Elle m'a laissé à mes grands-parents et puis suivi par ma tante et mon oncle qui nous ont élevés. Du coup, j'ai pas vécu ma vie, en gros, pas du tout des fois avec ma famille, mes propres parents. Et du coup, un jour, à l'âge de 6 ans, j'arrive à l'âge de 6 ans de conscience et je vois mes enfants, pardon, mes amis qui jouent avec leurs parents et après, elle va jouer, ils vont courir vers leurs parents, demander, ils veulent aller voir leurs parents. Je me dis, moi, je regarde, mais je cours vers où? Je cours vers qui? Parce que je n'ai pas mes parents. Eux, ils ont leurs parents et je cours vers ma grand-mère et je demande, ils sont où mes parents? Et du coup, ils ont dit, ils sont en train de travailler dans un autre pays, t'inquiète pas, ils vont venir un jour. Et du coup, j'ai vu que, à peu près 14 ans de ma vie, et qu'ils sont venus une ou deux fois seulement pour les vacances, d'être avec nous. Et du coup, pendant 14 ans, j'ai vécu sans mes parents. Donc c'était un peu le sujet de ma vie. Et aussi, j'étais élevé par mes grands-parents sont super extraordinaires, mais tout de suite, j'étais envoyé tout de suite vers ma tante et mon oncle. Malheureusement, ce n'était pas le bon choix de mes parents. Parce que ma tante et mon oncle, ils sont à la fois religieux, mais à la fois dans l'occulte de sorcellerie, et qu'ils ont même fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et du coup, nous sommes devenus sous l'esclavage de ces personnes spirituellement. Du coup, on a vécu beaucoup d'abus physiques et de verbal. C'était très, très difficile pour nous, les enfants, par exemple moi, mes frères et sœurs. Et du coup, mes frères et sœurs, ils ont vécu un peu la même difficulté. Mon frère, il n'a même pas eu le premier année de lait de ma mère, quoi. Du coup, à quel point on était séparés de mes parents. Et du coup, j'étais élevé dans cette communauté musulmane. Je prie, je pratique, j'y vais à la mosquée, j'apprends le Coran, je lis le Coran, je finis le Coran, et je fais comme tout le monde fait là-bas. Et bien sûr que quand on lit le Coran, on connaît pas exactement ce que ça veut dire parce qu'on je peux lire le Coran, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire parce que je connais pas cette langage arabe. Et du coup, on fait comme ça que peut-être le imam qui nous apprend qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça veut dire ce que tu lis. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris le Coran et les histoires du Coran, et inclut l'histoire de Issa, Jésus-Christ, et de toute autre personne dans la Bible et dans le Coran qui correspond. Et du coup, je vis comme ça, et à l'âge de 14 ans, j'entends parler que mes parents décident de venir vivre avec nous. Donc, ils vont quitter le pays, ils vont venir vivre avec nous. Donc, on était tout contents. On attend tous, ah, ils vont venir vivre avec nous. Donc, on prépare dans notre cœur qu'ils vont, on va habiter avec eux, on va vivre avec eux. Et là, ils sont venus. Je suis allé voir ma mère à l'aéroport, et je la vois de loin. Et ma tante, elle dit, mais regarde, c'est ta mère. Je dis, je la regarde, mais je n'arrive pas à dire qu'elle est ma mère, parce que je ne la connais pas. C'est dommage. Mais du coup, ils sont venus installer, vivre avec nous. Et puis au bout de quelques jours, un jour passe, et puis nous, on attend patiemment quand elle va me donner un câlin, quand elle va me dire, je t'aime mon fils, et quand elle va me dire, je suis fier de toi. Et tu sais que tu vas y arriver, tu vas y avancer, et je suis derrière toi. De tout ce que j'attendais, toutes ces choses, c'est mis à plat que je n'arrivais pas à recevoir de leur part. Malheureusement, ils ne pouvaient pas nous donner ce que j'attendais. Et surtout, ils commençaient à nous élever un petit peu comme ma tante et mon oncle, avec beaucoup de dureté. Avec les paroles, ne sont pas très valorisants, mais vraiment cassants. Et du coup, là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais bloqué d'un coup. Et mon père, il n'arrive pas à me recevoir. Il est bloqué lui-même, il est perdu, il ne sait pas m'accepter. Il ne sait pas m'aimer, il est là, mais il part. Il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, en même temps. Du coup, je suis bloqué. Et juste une pause, je mets une petite pause parce que je suis allé vérifier plus tard, après quelques années maintenant, j'ai demandé pourquoi vous n'arrivez pas à nous aimer. Parce que je repars un peu dans l'histoire plus tard. Et je leur ai demandé pourquoi, et puis ils m'ont raconté pourquoi. En fait, mon père, il était blessé pire que moi. Il était dans le village où il a eu deux pères. Et les deux pères ne l'ont pas accepté comme il est son fils. Et donc il était déjà rejeté, il vivait avec la honte et le rejet déjà depuis qu'il est petit. Et de son frère qui est aîné, qu'il a mis sur un arbre souvent, qu'il le serrait dans un arbre, il le frappait tout le temps. La violence très jeune âge. Et du coup, dès le 12 ans, il ne pouvait même pas rester à la maison, il voulait quitter la maison. C'était son histoire quand il était petit. Et du coup, il vivait, il n'y avait même pas d'amour à l'époque. Et du coup, quand j'attendais un homme amour de lui, il ne peut même pas me donner. Il n'a rien. Son cœur est congelé. Du coup, c'est pour ça, juste pour expliquer, ils ne sont pas des gens méchants, mais ils ne pouvaient pas nous donner ce qu'ils n'ont pas. C'est dommage. Et du coup, je continue ma vie. J'ai vu qu'il ne pouvait pas me donner ce que j'ai besoin. Et j'ai eu une opportunité rapidement de quitter le pays et partir travailler à Singapour et faire mes études. Du coup, je suis parti rapidement, mais avec mon cœur très, très blessé. Le rejet total et abandon total, parce que je ne connais pas toutes ces histoires, pourquoi ils n'arrivaient pas. J'étais très jeune. Et là, et je pars à Singapour dès la première semaine. Et je ne sais pas comment j'ai atterri. J'étais atterri dans un endroit où il y a la vie de 24 heures. Il y a un mouvement dans un endroit que je vivais. Il y a tout le temps du monde. Il y a beaucoup de choses. Bah, du coup, j'étais mis dans un endroit où il y avait des gangs, où il y avait des prostitutions, où il y avait l'alcool, il y avait de toutes choses que je peux toucher. Et j'ai vu que derrière moi, il n'y a personne. Mes parents ne pouvaient pas me contrôler, ma tante ne pouvait pas me contrôler, mon oncle ni plus, et ma communauté musulmane. Mais j'ai toujours resté musulman, j'ai pratiqué l'islam, même en étant à Singapour. Et là, j'y vais, et je vois, il n'y a personne derrière moi. Je décide d'entrer dans ce monde que je vois devant moi. Mais j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais j'ai déclaré par ma bouche, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit, je veux faire tout dans ma vie, sauf tuer quelqu'un. J'ai déclaré comme ça dans ma bouche, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit. Je peux vous dire, à la fin de quatrième année à Singapour, je me vois aller deux fois dans la prison. Était presque addict de l'alcool et sexualité et presque la drogue et de total quoi surtout de gang j'étais un peu commencé à fréquenter des gangs où il y avait souvent le bagarre et quand je boire et quand j'y vais dans la boîte de nuit je pouvais même presque frapper les flics de Singapour. Il faut jamais faire ça à Singapour. S'ils te mettent dans la prison tu peux jamais ressortir. Mais du coup moi je suis en train d'aller, j'en ai marre, je m'en fous, je sais pas qui je suis et j'existe pas. Un orphelin n'existe pas. Lui, il fait ce qu'il veut et il s'en fout du monde, il s'en fout de respect. Moi, j'étais comme ça. Je suis en train d'aller, bam, 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 je m'en fous, j'y vais. Même s'ils vont me tuer, même s'ils vont me mettre dans la prison, je m'en fous, j'y vais. C'était ça, comme ça que je vivais. Et jusqu'à, parce que je cherchais qui je suis, parce que mes parents m'ont pas dit qui je suis. Et du coup, et aussi, j'ai cherché à combler mon cœur qui est vide. Quand un cœur a été créé humainement, et ce cœur, il a besoin d'amour et affection. S'il n'a pas cet amour et affection, tout seul, automatiquement, il y a un trou qui crée, où on a besoin de remplir par plein d'autres choses. Bah, dans mon cas, j'étais dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses comme ça pour me remplir. Malheureusement, du coup, à la fin de quatrième année, je rencontre une petite amie, une Française, n'est pas chrétienne, et première fois, un humain me montre un amour envers moi. Du coup, juste cet amour d'une personne m'a calmé de tous ces bazars. Et je quitte Singapour, j'y vais en Malaisie pour vivre avec elle. Un jour, mes amis, ils m'ont vu. À Malaisie plus tard, ils m'ont dit, mais est-ce que c'est Chifnas? Parce que j'ai fait le bagarre avec eux la nuit. Et moi, j'ai changé juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Ça m'a soulagé comme ça. Ok, c'est bien, mais c'est pas assez, c'est pas fini. Et du coup, avec elle, je viens en France et je commence à vivre ma vie et je continue à vivre. Surtout, je commence à continuer à rechercher l'islam. Je pratique l'islam. J'y vais à la mosquée vendredi. Je fais le jeûne 40 jours, 30 jours, un mois. Mais surtout en France, quand c'est lié avec le soleil. Le soleil se couche tard l'été. Je peux jeûner encore jusqu'à 22 heures des fois. Et mon ex, elle me voit faire tout ça. Je fais des recherches de l'islam en ligne pour que je puisse comprendre mieux. Là, elle a eu peur. Elle dit, elle connaît un peu ce qui se passe dans l'islam. Elle connaît la valeur des femmes, etc. Elle a dit, là, je m'en vais. Je ne peux plus rester avec toi parce que là, je sais que tu vas me ramener dedans. Et du coup, elle a dit, je m'en vais. Et quand elle a dit qu'elle part, le problème c'est que je suis venu en France pour elle, j'ai jamais pensé à l'Europe, et je suis venu quand elle partait, j'ai senti de me suicider parce que j'ai personne d'autre qui m'aime sur la terre et que je suis tout seul en France. Je parle même pas bien français à ce moment-là. Et du coup, c'était très difficile pour moi le jour qu'elle est partie. J'avais vraiment envie de mourir parce que c'était très difficile d'être tout seul sans l'amour et d'être tout seul dans ce monde encore. Mais en étant avec elle, j'ai vu qu'il y avait un espoir. Elle avait une vie différente que moi. On peut vivre une vie encore différente. Ça m'a donné ce goût-là. Et quand ça se passait, elle est partie, mais je suis reparti dans le monde. Ce que je faisais à Singapour, je commençais à faire ici, aller dans la boîte de nuit, faire la nuit. Je suis perdu. Je bois beaucoup. Je commence à goûter le drogue et je commence à faire le bagarre, le colère. Tout recommence. Ah, ça fait 10 ans que je commence à vivre comme ça ma vie. Au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Je dis, mais je veux plus vivre ça parce que j'ai vu mon ex, elle avait une vie un petit peu mieux que moi. Et ça m'a donné un goût de vie. Il y avait un espoir, je ne sais pas comment. Et du coup, je dis, j'arrête ce bazar de vivre de la nuit. Et en plus, j'ai travaillé la nuit à l'époque. Et c'était tout le temps à l'envers ma vie. C'était compliqué. J'arrête cette fois. J'ai envie d'arrêter dans mon cœur. Je ne sais pas quoi. J'arrête. Au lieu de faire la nuit dans ma vie maintenant, j'y vais, au lieu d'aller du monde, et puis j'arrête, je reste à la maison, je refais les recherches en ligne pour connaître mon Dieu et mon religion de l'islam et connaître la justice du monde. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis arrivé là? J'ai pas fait du mal pour que j'arrive à souffrir comme ça. Et toutes ces recherches liées avec la justice. Et demander où sont les bonnes personnes, tout ça. Quand je fais ça, là, je peux vous mettre une petite ligne de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. C'était à l'année 2015, 14-15. C'est ce qui se passait. J'étais blessé par mes parents, j'étais rejeté, abandonné. Un problème émotionnel est là. Deux, à cause de ça, tout ce que je touchais, mon cœur est instable. Tout ce que j'ai touché, mes études, mon travail, j'ai jamais fait des études plus qu'un an. J'ai jamais travaillé dans un endroit plus qu'un an instable. Et mon ex, elle est partie. Tout est instable. Tout ce que je touche, rien reste rien. Tout est instable. Deuxième problème. Et troisième problème, j'en ai plus de visa. Je commence à avoir un problème de visa en France. Et quatrième problème, quand j'arrêtais de faire ce monde. Vous vous rappelez, j'ai dit à Singapour, je veux faire tout dans le monde, mais sans tuer quelqu'un. Mais cette parole est mauvaise parce que quand j'ai arrêté d'aller dans le monde, et une quatrième problème est venu à la maison, dans mon appartement. Il y avait des manifestations démoniaques qui commençaient à venir dans ma vie. Juste comme ça, dans mon appart, je ne sais pas pourquoi d'un coup, il y a une présence, et plusieurs présences, et ils commencent à venir me torturer ma tête des pensées et qu'ils me parlaient et ils m'ont dit que ils m'ont mis une liste de ma vie. Ils m'ont dit que c'est moi qui a détruit les relations avec toi et tes parents. C'est moi qui a fait que tu fais pas des études. C'est moi qui a fait que tu quittes ton ex. C'est moi qui a fait que tu travailles pas totalement et que c'est moi qui a fait que ton visa soit perdu. Et il me dit, maintenant, personne t'aime sur la terre. T'as rien à faire sur la terre. Soit je te laisse le choix de mourir, ou il m'a donné juste une deuxième choix. Soit tu meurs, suicide-toi, ou je te donne le deuxième choix. Comme tu étais à Singapour, que tu voulais être dans le gang, de devenir de quelqu'un pour que tu puisses voilà, avoir une vie. Mais il m'a dit, je vais te montrer en Europe où il y a des groupes de gens comme gang et il m'a dit clairement le mot, hein, il m'a dit le mot, c'est quoi le mafia. Je vais te montrer les gens où tu peux retrouver ces groupes de gens, où tu peux vivre mieux que Singapour. C'était ça le choix. Soit tu meurs, ou soit tu fais ça. partir par le chemin de vivre de, voilà, de gangster et vivre la vie difficile encore. Mais moi, j'ai dit, je ne veux plus les deux. Je veux vivre. Mais c'était très difficile de vivre avec tous ces problèmes que j'ai eus. Bah, qu'est-ce que j'ai fait avec cette présence de l'ennemi dans ma vie, dans ma maison, physiquement palpable, quand je vais travailler, il est là. Je suis complètement blindé de problèmes. Je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. J'ai appelé mes parents pour qu'ils puissent prier pour moi. Je suis allé voir un imam à la mosquée pour qu'il puisse prier pour moi. J'ai jeûné, j'ai prié. Rien passe, il n'y a rien bouge avec même ce truc spirituel. Il est toujours là, il me torture tous les jours. Ça a duré 6 mois. Je peux vous dire, je ne pouvais plus un jour, je m'assois après avoir prié en tant que musulman, je m'assois, je pleure. Je pleure. Et mon cœur, il ne peut plus vivre comme ça. C'est très difficile. Et du coup, je pleure et je prie encore à ce Dieu que je connais de Allah. Je lui demande, qu'est-ce que je fais pour que je souffre comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Où est la bonne personne qui peut m'aider? C'était ça ma prière. Je peux vous dire, c'était juste une simple prière, mais sincère, mais de cœur. Après cette rencontre. Parce que j'ai déjà vu les musulmans qui pouvaient m'aider. J'ai jamais reçu des aides qu'il fallait que je reçoive. Mais après cette prière, une semaine, je rencontre des chrétiens. Je rencontre un groupe de missionnaires qui sont arrivés en Bretagne à Rennes, qui sont devenus mes amis aujourd'hui, et que première fois et derrière, je connais que Connect, ils ont créé un café récemment. Vous savez, j'ai rencontré cette missionnaire dans un café. Dans un bar. Et je propose les pasteurs, quand vous allez aller dans un bar pour retrouver les gens perdus, parce que des fois, ils vont pas toujours venir à l'église. Il fallait les chercher. Et j'ai rencontré cette femme, elle a eu le courage de venir dans un bar. On a parlé anglais ensemble, pour échanger ensemble. C'est la première fois en France, depuis quelques années que je vis, une personne qui parle de Dieu. Personne, j'ai jamais entendu parler de Dieu. Autrement. Donc elle échange avec moi, avec une relation, et qu'elle parle de ce qu'elle fait pour Dieu, qui est son Dieu. Moi, je parle de mon Dieu que je connais. Je ne connais pas très bien comme un théologien ou musulman, mais je parle, je fais un débat avec elle. Mon Dieu est comme ça, Allah est comme ça, elle est comme si, il est comme ça. Elle renvoie un message de Dieu. Dire que oui, je comprends, mais je pense qu'il est comme ça. Donc, il y a un débat qui continue. À la fois, il voit au bout de quelques mois qu'on a une relation avec ce groupe d'amis missionnaires qui viennent de Canada et États-Unis et Allemagne. Il m'encourage, il me dit, Chifnas, je te vois souffrir et que je vois que tu vas pas bien. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Ils m'ont dit. Je dis oui parce que j'ai essayé tout. Donc, je dis prier pour moi. Hein. Je meurs. J'essaie de même méditer comme un bouddhiste pour libérer ma tête parce que des fois j'avais envie de taper ma tête sur le mur parce qu'à quel point c'était le tourment était fort de ce truc de démoniaque. Et du coup, ils ont prié pour moi. Je ne savais pas. Ils ont envoyé mon nom à plusieurs pays, une centaine de personnes qui commencent à prier pour moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait un combat spirituel à démarrer. Le fruit de ce combat spirituel, c'était ça. Le fruit du combat spirituel, c'est que j'étais en train de travailler dans la nuit, dans un hôtel. J'ai fait le réceptionniste, mais je suis en train de faire l'aspirateur. Pendant que je fais l'aspirateur, je sais que la présence de l'ennemi est toujours dans ma maison, où je travaille. Mais ce jour-là, c'était spécifique. Et cette présence de l'ennemi qui est venue me contrôler comme ça, physiquement, littéralement. Désolé pour ceux qui ne croient pas que l'ennemi n'existe pas. Satan existe. Il est en train de nous détruire, nous voler. Et c'est une réalité. Et c'était le cas pour moi. Et qu'il est venu me contrôler physiquement et il m'a parlé. Une deuxième fois. Il m'a dit que je ne peux plus te déranger dans ta vie car il y a quelqu'un qui vient dans ta vie qui est plus grand que moi. Il me dit ça pour moi, tout de suite, un musulman, pour lui, c'est un Allah. Plus grand que lui, c'est Allah. le Dieu de Allah, le grand Dieu. Moi, je dis, selon le Coran, à cause de nos péchés, et il dit que le Coran, que nous et Allah, et nous sommes séparés. Allah jamais va venir dans ma vie. Moi, je n'ai jamais cru dans cette parole qu'il a dit, Satan même. Je dis, ok, moi, j'ai laissé cette parole, je suis parti, et lui, il est parti aussi. Et dans la même semaine, un jour, je m'assois sur mon lit, je dors le matin. Donc il y a toujours la présence de l'ennemi dans ma chambre, je vis mal, je ne vais pas bien, je meurs. Et je prie une prière souvent avec mon cœur. Dieu, de Allah encore, et que si tu existes, aide-moi, je vais mourir. J'ai besoin d'aide. Et je prie avec mon cœur, ni comme musulman, ni comme chrétien. Pendant que je fais cette prière, c'est spécifique ce jour-là, c'est le jour de salut, et que j'entendais une nouvelle voix parmi des mauvaises voix. Et cette voix était tellement paisible, tellement positive, tellement agréable, au contraire de la liste que l'ennemi a mis. Et j'en ai marre de ces esprits, même cette voix, la bonne voix. J'ai parlé à cet esprit, si tu ne me dis pas qui tu es, je ne vais plus te parler. Parce que j'en avais marre de ce tourment. Je dis, parce que je ne te vois pas et je ne peux pas te parler. Et je lui ai dit, si tu ne me dis pas qui tu es, je ne vais pas te parler avec toi. Et il m'avait dit tout de suite, si tu veux savoir qui je suis, ferme tes yeux, tu verras qui je suis. Je dis, bon, j'ai essayé plein de choses encore, je réessaye. Je dis, j'essaye. Mais il m'a dit, maintenant, ferme tes yeux. Et maintenant, je dis, j'essaye. Je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux tout de suite. Je vois Jésus à cette distance-là. Il était debout. Il était en paix totale. Et il avait les cheveux longs et barbe longue et une robe blanche. Et ce qui est intéressant, j'ouvre mes yeux, je referme, il est toujours là. Et ce qui est intéressant sur cette scène-là, c'est qu'il y avait une gloire sur lui. C'était cette gloire qui signifiait qu'il est divin. Parce que je suis quelqu'un qui est formaté par la doctrine du Coran qui dit que Jésus est un prophète. Et là, je vois directement et qu'il est plus qu'un prophète, il est un divin, il vient du ciel, il est Dieu, il est divin, il est divin. C'est ça la parole qui est descendue dans mon esprit à ce moment-là. Et là, je suis choqué parce que j'ai deux informations. Je vois Jésus comme ça, et j'ai ma vie de musulman qui connaît Jésus comme ça. Et puis je suis allé tout de suite dire à l'endemain à mes amis chrétiens, pour eux c'est... Mais pour eux, c'est leur Dieu. Il y en a qui pleurent, il y en a qui réagissent, ils sont trop contents. Moi, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire avec cette information. Et puis, ils m'ont dit, Chifnas, ils ont vu que je ne comprends pas ce Jésus. Je comprends l'autre Jésus, mais pas ce Jésus. Ils m'ont dit, on va t'inviter à regarder un film de Jésus. Et tu vas voir comment tu vas comprendre mieux, plus sur ce Jésus que tu as vu. Et là, je suis allé voir ce film. C'est là que j'ai été touché. Dans ce film, et je suis en train de regarder ce film, et dans la Bible, c'est écrit, « Je suis venu dans ce monde pour que tu ne restes pas orphelin. » Et vous savez, je vivais comme un orphelin pendant que mes parents vivaient. Et il a dit que, je suis venu pour que toi et mon père deviennent un, pour que je devienne un enfant et qu'il est ton papa. Mais je peux vous dire, ces paroles, ça pouvait être juste comme ça écrit, mais quand c'est le moment de Kairos tombe, ça pénétrait dans mon cœur. Je pleure la soirée là-bas et je rentre chez moi, je pleure. Mais ce n'est pas des pleurs comme ça qu'on pleure, c'est comme un enfant qui pleure envers son père, et c'est une adoration de cœur, d'amour. Et Romains 8:12 qui parle de ça, l'amour d'adoption, et le père de prodige, de fils prodige, quand le fils prodige court vers son père et le père qui court vers le fils sans regarder de grand chose, oubliant de ce qui se passait, mais juste un amour absolument pur et agréable. Et j'étais en train d'expérimenter un amour extraordinaire. Et ça durait, je peux vous dire, c'est pas un mensonge. Ça durait 3 mois tous les jours à peu près. 3 mois. Je pleure tous les jours. Je pleure devant mes clients quand je travaille. Je prends le métro, je pleure. J'arrivais pas à tenir cet amour, mais c'était tangible et profond. La Bible dit que l'amour de Dieu est tellement profond et large et le hauteur. J'étais en train d'expérimenter cet amour extraordinaire d'amour de papa. Et au bout du 12e jour de cette expérience, je m'arrête. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Je me décris à moi-même, mais c'est quoi ce truc? Les paroles de ma bouche qui sortent, c'est éternel, c'est pas mes paroles. Moi, je suis un musulman. C'est pas la parole éternelle de musulman. C'est éternel, c'est saint, c'est pur, c'est Jésus. Oh, c'est le ciel, c'est waouh! Une expérience d'amour qui continue à couler. Et là, je décide de tout de suite donner ma vie à Jésus, être baptisé dans le mois, quelques mois suivants. Total, quoi. Là, des fois, il y a des gens, il y a des musulmans qui sont convertis, ils me demandent, est-ce que tu doutes encore de ça? Mais je dis, je ne peux pas douter parce que c'était une question que la création rencontre le Créateur. La création rencontre le Créateur. Et que c'était le moment que le ciel rencontre la terre. Quoi. C'est, on ne peut pas penser à ce moment la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une expérience spirituelle avec le Dieu qui nous a créé, un grand Père, Abba Père. C'était un peu la première partie du sujet. Je ne peux pas aller très loin, mais juste vite fait, juste pour vous encourager que ce n'était pas fini ma vie là-bas. Vous savez, bon, j'ai perdu mon visa. Et on pense que quand on accepte Jésus, c'est bon, tout va bien. Mais en fait, non, c'est là que ça commence. Je peux vous dire, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon visa et je ne pouvais pas travailler pendant 3 ans. Et j'ai pas travaillé illégalement. Dieu m'a demandé d'être droit. Il m'a fait montrer un chemin pendant 2-3 ans pour vivre une vie de disciple et de totalement zéro, rien. Rien. Tout l'argent que j'ai eu, j'ai redonné. Dieu m'a demandé de redonner. Et j'ai vivé avec zéro. Mais j'étais dans des endroits, c'était très difficile. J'ai vivé dans plusieurs appartements pendant ces années-là. Je connaissais même pas ces gens-là. Et c'était très difficile. J'ai perdu tout. Vraiment tout de zéro. Je suis devenu zéro. Et pourquoi, si tu veux devenir un disciple, le vrai disciple que vous lisez dans les 4 livres de l'Évangile, si vous voulez vivre ce disciple, ce genre de vie, et si vous ne devenez pas zéro, même si vous avez construit votre vie de disciple, des fois vous devrez remettre tout à l'autel, que vous redevenez zéro, parce que sinon nous allons créer beaucoup de d'autres choses qui ne sont pas semblables à Dieu et que ça casse tout. Et vous savez que pendant que je vivais cette difficulté pendant longtemps, j'avais pas une direction de vie, j'avais pas une visa, je sais même pas où j'y vais. J'étais déconnecté de mes parents, je suis totalement, c'est comme si je suis en train de flotter sur l'océan tout seul. C'était très difficile pour moi. Un jour, je pleure devant Jésus. Je dis, mais Seigneur, je sais que c'est difficile, mais Seigneur, je ne sais pas où j'y vais. Aide-moi à comprendre. Je suis ton disciple, je suis ton fils. Je ne sais pas où j'y vais. Montre-moi. Mais je peux vous dire, j'ai rencontré Jésus une 2e fois. J'ai vu une vision de nouveau. Et je ne sais pas comment on peut expliquer, c'est mystique. Dieu m'a ramené sur la montagne où il est mort. Je peux vous dire, il était en train de mourir sur la croix. Et je vois cette scène-là, j'ai vu cette scène-là. Je vois le sang de Jésus partout sur son corps. Et je vois qu'il n'est pas juste sur la croix. Sur la croix, juste comme ça, en attendant de mourir. Non, j'ai vu qu'il est en train de vraiment souffrir. Je vois son corps bouger, je vois, et qu'il ne pouvait pas tenir cette douleur. C'était très difficile. Et à la fin, j'ai vu devant mes yeux, juste devant mes yeux, le goût de son sang tomber comme ça. Et là, je m'arrête ma bouche de toutes mes plaintes de ce monde, et je m'arrête dans cet endroit-là. Et il m'a dit, Shifnas, mon fils, je comprends ta souffrance, mais tu m'as vu souffrir. Mais j'ai souffert plus que toi, pour que toi aussi tu ne souffres plus. Et que j'ai souffert pour que tu ne souffres plus, pour que tes problèmes soient résolus. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu pire, encore radical. Je vivais sans l'argent. Je disais, si je n'ai pas d'argent, je vais jeûner. Vraiment à fond. Mais je suis devenu très radical, très droit. Et droiture était très important pour moi. Et là, bon, Dieu m'a redonné au fil des années tout ce que j'ai perdu. J'ai obtenu tout ce que j'avais besoin. Désolé, ça a pris un peu de temps, les amis. Je voulais juste finir. C'est fini mon témoignage, mais je voulais faire un petit appel aux gens. Ceux qui sont là, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui n'ont pas cette bon berger, la table qu'on a parlé, que Jésus nous invite à une communion. Nous vivons dans un monde qui est très difficile et qui nous rend très très difficile tous les jours dans notre vie. Mais est-ce que Dieu nous demande, viens me regarder? Juste regarde-moi, regarde-moi, regarde mes yeux. Et quand on regarde juste, on ne regarde pas la présence de l'ennemi. Satan ou plein d'autres choses qu'on peut dire qui nous détruisent notre vie. Quand on regarde juste le communion et ce repas qu'on mange avec lui, va nous fendre notre cœur. Et que ça va devenir un repas éternel que nous n'allons plus avoir faim. C'est ce que Jésus a dit. L'eau que vous allez boire, vous n'allez pas avoir faim. Mais je parle aux gens qui souffrent, qui ont besoin de ce pain, qui peuvent juste être fondre de cet amour de Dieu, cette bras de Dieu qui est là pour protéger, qui est là pour donner la main, qui ne va jamais lâcher, qui vous invite dans cette famille. Et que si vous ressentez ce besoin dans votre vie, si vous sentez que vous êtes seul, si vous sentez que vos parents vous ont rejeté, si vous ressentez que vous n'avez pas cette table devant vous, alléluia, c'est le moment de venir. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un que je peux vous encourager ici que vous n'avez pas l'alliance avec Jésus, cette alliance de sang de Jésus, cette alliance de communion avec Dieu, cette couverture de Dieu. Spirituellement, si vous n'êtes pas couvert dans ce monde, vous allez être mangé, détruit, volé par l'ennemi. Est-ce que vous avez cette couverture? Est-ce que vous êtes couvert par Dieu? Est-ce que vous avez cette salut? Est-ce que vous avez cette sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut pas repartir à la maison, toujours la même vie, toujours le même esclavage? Est-ce que vous souhaitez vivre avec ce Dieu qui a créé le ciel et la terre? Il est vivant, il est là. Est-ce que quelqu'un qui veut vivre? Est-ce que si quelqu'un qui souhaite vivre avec ce Dieu, qui est prêt à suivre, il va venir vous bénir, il va venir vous toucher, il va venir changer votre vie? Ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et vous me voyez, il a changé ma vie comme une crêpe. Et qu'il peut vous retourner, il peut vous redonner une vie totale. Là, je vous encourage, c'est le moment de prière. Je vais demander Claire aussi, de peut-être s'il y a d'autres choses à organiser, mais je vous demande, si quelqu'un qui peut juste jouer la musique un peu, et aussi c'est midi, il y a des gens qui devraient aller chercher les enfants, mais ceux qui sentent que votre cœur frappe, l'Esprit Saint vous frappe la porte et que vous sentez que vous n'êtes pas digne devant ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous invite à venir devant. Et s'il y a d'autres personnes que vous ressentez que vous n'êtes pas dans cette alliance en fait, vous avez perdu cette alliance, et que vous ne sentez pas que vous êtes attaché à Dieu, et vous sentez que vous êtes l'extérieur de Dieu, c'est le moment de venir se mettre tous sur l'autel de Dieu. Vous savez, la Bible dit que je vous sauve aujourd'hui, pas le demain, aujourd'hui. Je vous encourage de venir, je vous encourage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici déjà qui ne connaît pas Jésus, qui veut suivre Jésus? Vous pouvez lever la main avec la fierté. Ou si vous ne sentez pas, vous pouvez venir devant, on peut prier pour vous. Alléluia. Ou s'il y a d'autres personnes qui ressentent le besoin et que Dieu vous, il peut vous toucher, il peut vous relever, il peut vous ramener à une vie de disciple, de tout abandonner. Quand on abandonne tout, vous savez, nous sommes dans le Nouveau Testament, quand on donne notre corps le sacrifice, autant que sacrifice vivant, le feu va tomber sur le sacrifice. C'est ce qui se passait pour les disciples. Si vous voulez avoir une autre vie, si vous sentez qu'il y a une autre vie qu'aujourd'hui que vous vivez en 2023, 2024, est-ce que vous voulez redémarrer une vie en 2024, une vie pas de juste de tous les jours, mais une vie consacrée à Dieu, une vie attachée à le Dieu qui est saint et qui est pur et qui est honorable, qui est le Dieu de Mont Sinaï, le Dieu qui nous invite à le voir, à communier. Est-ce que vous voulez démarrer cette vie? Je vous encourage de venir devant.